Bonjour à tous, merci d'être venus. Voilà, donc je vais vous présenter là aujourd'hui le projet OpenStreetMap. Donc ce projet est un projet de carte, donc de cartographie coopérative libre. Voilà. Donc au début, il était prévu que ce soit Marc Sibert qui fasse cette présentation. Il a eu un empêchement, donc voilà, c'est moi qui ferai cette présentation. Donc, je suis Nicolas Dandrimont, je suis responsable technique au CRANS, voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Mais il s'avère que je suis aussi contributeur au projet OpenStreetMap. C'est moi qui ai fait les démarches pour qu'on ait une présentation à ce sujet pendant la salle partie. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un sujet sur l'informatique libre en elle-même, mais c'est un sujet connexe sur les données et plutôt la liberté de réutilisation, de modification de données en elle-même. Voilà. Donc cette présentation sera en... a priori trois parties, une partie de présentation sur le projet OpenStreetMap en lui-même et qu'est-ce qui est fait avec ce projet, et ensuite on va parler un petit peu de comment contribuer à ce projet OpenStreetMap. Voilà. Donc le projet OpenStreetMap a été lancé en fait en 2004 par Steve Coast pour répondre en fait à une nécessité d'avoir des données géographiques libres. L'idée, c'est que il a voulu créer en fait un Wikipédia de la cartographie à une échelle mondiale. C'est un projet qui est libre, c'est-à-dire que les données sont toutes accessibles à tous, réutilisables sous certaines conditions de licence qui sont très très ouvertes et qui répondent a priori aux quatre libertés fondamentales. Et le projet est aussi ouvert d'un côté technique, c'est-à-dire que tout ce qui est fait autour du projet est a priori libéré par les contributeurs. Donc tout ce qui est outils d'édition, outils de post-processing de la carte, etc., ça va être des outils qui sont utilisables par tous. Donc le modèle de données, lui, n'a pas de limite en lui-même. Donc on va pouvoir faire des cartes routières, mais on va pouvoir aussi aller naviguer sur les eaux, faire des cartes marines, on va pouvoir faire les transports en commun, on va pouvoir faire du routage. C'est-à-dire qu'une carte en elle-même, c'est très intéressant d'avoir un plan de là où on est, mais ça va être intéressant aussi de savoir par où passer quand on va aller d'un point A à un point B. Ça, on va pouvoir le faire avec le modèle de données d'OpenStreetMap. On va pouvoir après aussi géolocaliser des adresses, des services, etc. Voilà. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser OpenStreetMap alors qu'on peut utiliser un produit qui s'appelle Google Maps, qui est totalement gratuit et accessible à tous. Alors, la réponse simple à cette question, c'est tout simplement que les données sont soumises à des droits d'auteur. En fait, c'est pas un terme correct. En fait, les données appartiennent à des gens qui donnent une licence très restrictive à Google. Et en gros, les données, on a le droit de les afficher. Donc on a le droit de dire, ici, il y a l'avenue du président Wilson. On va mettre en bas à droite de la page, les données viennent de Téléatlas, viennent de l'IGN. Mais pour en disposer réellement, c'est-à-dire pour faire nous-mêmes, nous, si on veut faire une solution de routage qui n'est pas la solution de routage de Google, on va être obligé d'acheter une licence en fait chez Téléatlas. L'intérêt autre aussi, ça va être de pouvoir modifier, corriger, enrichir la base de données. Enfin, par exemple, si on regarde dans des zones côtières où les niveaux des eaux vont changer régulièrement, et il s'avère que Google, il me semble que c'est du côté de l'Australie, il y a des routes qui sont actuellement dans un lagon. Voilà. Donc il y a des routes qui sont dans l'eau. Voilà. Et il y a des gens apparemment qui ont suivi Google Maps et qui se sont retrouvés dans l'eau. Voilà. Donc OpenStreetMap, c'est toute une base de données où on va avoir toute la géographie de la planète. Et ça va être aussi des outils pour pouvoir avoir des cartes utilisables. Parce que bon, on va avoir une liste de points, une liste de lignes, mais ça ne fait pas une carte utilisable. Donc on a plusieurs types d'outils qui vont être intéressants. On a les moteurs de rendu qui vont permettre de créer des cartes, donc des images qui représentent les données géographiques que l'on a enregistrées. Donc ça va être les projets MapNIC et OsmaRender que je peux vous présenter tout de suite. Voilà, donc ici, ça, c'est le rendu par défaut qu'on a sur le site openstreetmap.org. Donc, bon, j'ai choisi l'école normale supérieure de Cachan parce qu'on y est d'une part, et d'autre part, c'est une zone à laquelle j'ai beaucoup contribué. C'est-à-dire que, par exemple, c'est moi qui ai rentré les routes à l'intérieur du campus. Voilà. Donc, on voit, en fait, dans ce... sur ce plan, bah, qu'on a tous les bâtiments, on a les noms des bâtiments, on a aussi ici par exemple le Carrefour Market, etc. Bon, enfin voilà. On a un rendu des données. Si on va sur le petit plus à droite, on peut trouver un autre type de rendu. Voilà. Donc on peut changer la feuille de style. On a un rendu qui est plus orienté cyclable. Donc, où on va mettre en évidence tous les aménagements cyclables. Donc là, si on regarde, on a des traits bleus qui représentent la piste cyclable qu'il y a en fait sur l'avenue du président Wilson. Et on a des rendus après qui sont peut-être encore différents. Voilà. Bon, c'est, je trouve moins joli que les deux rendus classiques, Mapnik et Osmarender. Voilà. Donc ça, c'est comment on va pouvoir tracer les données d'OpenStreetMap. On va avoir un certain nombre d'API de routage. Donc API, c'est en fait une interface de programmation. On va pouvoir rentrer une adresse de départ, une adresse d'arrivée, des points d'intérêt par lesquels on veut passer. Et puis ça va nous donner, bah, voilà, il faut passer par telle rue, il faut tourner à droite, il faut prendre au rond-point la troisième sortie, etc. CloudMade, donc il y a une typo là sur la slide, c'est une... En fait, c'est une entreprise qui a été fondée par Steve Coast, donc un des fondateurs d'OpenStreetMap. Et en gros, ils fournissent une API qui est utilisable par tous. Et il me semble que le code est disponible aussi. Donc, quelqu'un peut reproduire une instance en fait de cette API sur un serveur qui lui appartient, etc. Ensuite, bien sûr, ces cartes, on va vouloir les utiliser en se déplaçant. Tout le monde n'a pas forcément Internet en se déplaçant, même si les accès à Internet sont de plus en plus présents partout. Beaucoup de monde a un accès à Internet 3G, etc. en direct. Donc en fait, il va y avoir des applications embarquées sur tous les OS de téléphone classique, donc Windows Mobile, Android, iOS, Symbian, Maemo, etc. Où en fait, on va avoir l'accès aux données. On va avoir... Potentiellement, pour certaines applications, il me semble que sur Android, il y a plusieurs applications qui permettent aussi le routage directement sur le périphérique ou via une API externe qui va être appelée par Internet, etc. Donc on va pouvoir avoir sur son téléphone les données qui viennent d'OpenStreetMap. Et bien sûr, bah aussi, il y a tout ce qui est GPS. Et il y a une suite d'outils qui permet de générer des cartes pour les GPS Garmin. Et donc, bah, on peut avoir des cartes OpenStreetMap, par exemple, pour des pays qui sont un peu moins couverts que, par exemple, l'Europe, des pays d'Afrique où la communauté commence à être active et où on va avoir des cartes qui sont plus précises que les données que l'on obtient via Téléatlas, etc. Donc, on va pouvoir générer des cartes comme ça, GPS, si on part en randonnée n'importe où, etc. Voilà. Donc, bien sûr, ces données, on ne va pas toutes les sortir de notre chapeau. Qu'il va falloir trouver des sources de données libres, c'est-à-dire dont les conditions d'utilisation sont telles que l'on peut les reprendre dans OpenStreetMap pour pouvoir après bah, les modifier, les améliorer, les fusionner, etc. Donc on a un certain nombre de sources qui sont à peu près classées par ordre d'intérêt. Bon, même si pas vraiment. On a une source qui est géolittoral, donc c'est les cartographies du littoral. En fait, on va avoir une précision de quelques... il me semble que c'est quelques dizaines de centimètres sur tout ce qui est la ligne de côte de la France. Voilà. Donc ça, c'est une licence a priori publique. Corinne Landcover, c'est une étude européenne qui a été faite pour désigner... Bah, voilà, telle zone en Europe, c'est une zone commerciale, telle zone, c'est une zone agricole, etc. Donc ça, pareil, c'est une licence libre. Voilà, donc si on regarde ici, on a un peu ce qui a été importé par Géolittoral. Ici, on a un exemple du patchwork, en fait, de Corinne Landcover. Une source française qui est très importante, c'est le cadastre, en fait. Il s'avère que la Direction générale des finances publiques a... donner à OpenStreetMap une licence d'utilisation qui permet, donc aux contributeurs du projet OpenStreetMap de récupérer les données du cadastre, qui sont accessibles directement en ligne sous une licence restrictive. Mais ils ont donné une licence spéciale, en fait, qui permet de récupérer, on va récupérer l'emprise des bâtiments. Et on a de la chance parce qu'entre les bâtiments, il y a l'emprise des routes. Donc on va pouvoir tracer les routes entre les bâtiments. Et ça, en fait, ça a permis d'avoir une explosion vraiment de la taille des données françaises, en fait, puisque il s'avère qu'on a réussi à récupérer de manière vectorielle les données du cadastre. Donc on a ici, on a un point, on a les points qui sont qui sont placés. On a leurs coordonnées exactes géoréférencées, puisque le cadastre est là pour payer des impôts sur la surface habitable qu'il y a dans les maisons. Donc forcément, les relevés sont très précis. La précision va être de l'ordre de la dizaine de centimètres, ce qui est très très bien. Donc ces listes de points, en fait, on peut directement les convertir en fichiers qui va pouvoir être importés dans la base OpenStreetMap. Après, il va falloir quand même nettoyer un petit peu, il y a des points doubles, il y a des choses comme ça. Mais on peut arriver très rapidement à importer les bâtiments dans la base de données OpenStreetMap. Donc par exemple, si on regarde sur la carte de Cachan, ici tous les bâtiments, là, c'est moi qui ai fait l'import automatique. J'ai pas tracé tous les petits blocs là à la main, enfin je suis pas fou non plus. Bien que... il y a des gens qui tracent à partir de cadastres qui n'a pas encore été vectorisé. Donc il est possible aussi de tracer à partir des planches de cadastres qui ont été créées en 1950 dans les régions du fin fond de la France et qui n'ont pas changé depuis. Donc la Direction générale des finances publiques n'a pas eu la nécessité, en fait, de vectoriser tout ça. Donc on peut aussi tracer à partir des rendus donc raster, c'est-à-dire image. Voilà. On a aussi la possibilité d'utiliser des images satellitaires. Donc Yahoo a fourni, en fait, une licence à OpenStreetMap pour récupérer ces images satellites, et il me semble qu'ils ont aussi quelques photographies aériennes sur des régions déterminées. Donc là, le problème de ces images satellites, c'est qu'il y a une couverture très grande. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien quand est-ce qu'elles ont été prises, donc on ne sait pas trop si elles sont à jour, et la résolution est très variable. Ça peut être dans la région parisienne, on va s'approcher de 50 cm, voire moins. Dans les zones un peu plus profondes de la France, on va avoir 2, 3, 4 mètres, et là, c'est plus vraiment utilisable. On va avoir aussi beaucoup de collectivités territoriales qui vont libérer leurs données géographiques. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un mouvement qui part un peu de la Bretagne, c'est la communauté de communes de Brest qui a lancé, en fait, qui a lancé un peu un mouvement où, en fait, toutes les données géographiques vont être libérées. Il y a la ville de Paris aussi qui commence à libérer ses données sous des licences qui sont intéressantes pour OSM, pour OpenStreetMap. Donc on va avoir des sources comme ça qui sont très intéressantes, parce que ça va être des sources à valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, la ville de Paris, elle va libérer la liste des stations Vélib. Ça, c'est très intéressant parce que on va pouvoir faire une carte alternative des points où il y a des Vélib, et puis après l'améliorer parce qu'il y a des stations qui disparaissent, il y a des stations qui apparaissent, etc. Pareil, ils vont libérer la liste des points d'eau. Ça, c'est très pratique. On est dans la rue, on a soif, il faut trouver un point d'eau. Y a une source qui est maintenant un petit peu sous-estimée, mais qui est toujours très importante, c'est les relevés GPS qui ont été faits par les gens. C'est-à-dire que les gens se déplacent, les gens sont en voiture, sont dans la rue, Ils ont un téléphone mobile ou un GPS ou quelque chose qui est fait pour, qui va, toutes les secondes, marquer un point de données, dire, je suis à telle coordonnée, etc., toutes les secondes. Et donc, on obtient des tracés. Alors ici, c'est pas très clair sur cette image, mais en gros, il y a quelqu'un qui a fait un tour ici d'une maison. Donc on a la trace du chemin qui a été parcouru. Donc ça, c'est comme ça que OpenStreetMap a commencé, en fait. Donc c'est un peu la donnée de base d'OpenStreetMap, le relevé GPS, etc. Et l'idée, c'est qu'un seul relevé GPS, on va pouvoir avoir un décalage, ça va pouvoir être pas trop précis. L'idée, c'est que plus il y a de relevés GPS, en fait, plus on va voir l'emprise de la route. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dans un sens, des gens qui vont dans l'autre, des gens qui sont sur les trottoirs, etc. Et donc on va pouvoir trouver, en gros, la largeur de la route, et puis on va se centrer, on va tracer le trait qui correspond à la route. Le GPS aussi va permettre de recaler certaines données qui ne sont pas trop précises. Par exemple, les images satellites de Yahoo, elles peuvent être décalées de 5 mètres, etc. Donc on va utiliser les données GPS pour dire, on a tel point qui est connu, on va pouvoir le recaler sur la photo, sur l'image satellite. Et une dernière source qui n'est pas sur ce transparent parce qu'elle est très récente, il s'avère que Microsoft a un outil de cartographie qui s'appelle Bing Maps et ils ont une très grosse base de données de photographies aériennes et d'images satellites qui sont vraiment plus précises que celles de Yahoo. Et il s'avère que il y a de ça 3 semaines, je pense, ils ont libéré ces données. C'est-à-dire qu'ils ont donné une licence d'utilisation à OpenStreetMap pour le tracer, donc pour permettre aux gens de tracer en fait les images provenant de Bing Maps. Donc, si on regarde ici, on a un éditeur en ligne d'OpenStreetMap. Voilà, donc j'ai repris la zone de l'ENS Cachan. En fait, on voit qu'on a les données. Donc ici, on a des routes, etc. Et si on regarde un peu plus près, au fond, en fait, on a une photo aérienne. Donc on peut voir les bâtiments, on peut voir tout. On va zoomer un petit peu, en espérant que ça charge correctement. Donc vous voyez ici, il y a un logo Bing, et ici il y a copyright, machin, copyright Microsoft Corporation. Ça veut dire qu'en fait les données de fond viennent du fond de données de Bing, en fait. Donc voilà, Microsoft contribue aussi à la liberté des données, c'est assez rare pour le souligner. Voilà. Il y a un plan. Il y a tout un pan de l'activité d'OpenStreetMap qui est lié à l'humanitaire. En fait, il s'avère que il y a assez souvent dans le monde des catastrophes naturelles, et pour l'organisation des secours et de la reconstruction, il faut avoir des données géographiques précises. Un exemple qui est très fort dans la communauté OpenStreetMap, c'est le tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, donc ça fait tout juste un an. Il y a eu un tremblement de terre en Haïti et il y a vraiment la moitié du pays qui a été dévasté. Donc il y a beaucoup d'agences spatiales et d'entreprises privées qui ont libéré leurs données. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on donne nos images satellites pour l'effort de cartographie. Et un groupe de contributeurs, en fait, a mis à disposition les images et a fait en sorte de contacter les opérateurs pour avoir accès aux bases de données qui ont été libérées. Et la communauté OpenStreetMap, en fait, a fait en sorte de vectoriser tout ce qui est les routes, les services, les bâtiments, les bâtiments qui étaient encore en état, les bâtiments effondrés, les camps, les hôpitaux, les dispensaires, etc. Cet élan, en fait, a été à l'origine d'un projet qui prend de l'ampleur dans OpenStreetMap, qui est le projet HOT, donc HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler sur tout ce qu'il y a d'humanitaire, où il y a vraiment besoin de données géographiques. Parce que bon, quand il y a des inondations en France, on sait très bien où sont les routes. Quand il y a des inondations au Pakistan, les données cartographiques sont vraiment beaucoup plus maigres, et il y a besoin d'importer des données et d'avoir des données enrichies en fait sur les lieux, la géographie, etc. Donc voilà, on a une liste un petit peu des projets qui ont été faits par le projet humanitaire, donc tremblement de terre au Chili, le bidonville de Kibera en Afrique du Sud, avec un site, donc les slides seront mises en ligne sur le site de l'Install Party, les tempêtes qu'il y a eu en Chine, voilà. Donc le projet est en train de mettre en place des tags humanitaires, donc on verra exactement ce que c'est les tags, mais en gros c'est des étiquettes qu'on va mettre aux données. Ça va être des étiquettes qui vont être spécifiques aux problèmes humanitaires. Par exemple, on va pouvoir taguer un dispensaire, on va pouvoir taguer un camp de sinistrés, etc. Il y a des discussions actuellement entre les Nations Unies et le projet OpenStreetMap pour justement ces problèmes humanitaires, etc., pour que les Nations Unies puissent aider le projet OpenStreetMap pour avoir des données correctes un peu partout dans le monde. Voilà. Donc OpenStreetMap, on va vous plonger un petit peu plus dans le côté technique maintenant. Donc on commence par la licence d'OpenStreetMap. Donc c'est le cœur du problème en fait. C'est sous quelles conditions d'utilisation et de modification et de redistribution, etc., on va donner les, enfin, on va fournir les données du projet. Donc actuellement, la licence qui a été choisie est une licence Creative Commons. Donc c'est une licence qui a été faite pour les œuvres de l'esprit type images, documents, vidéos, etc. Donc c'est une licence attribution et partage à l'identique. C'est-à-dire que pour chaque réutilisation des données, on va être obligé de donner la liste des auteurs des dites données et on va être obligé de dire de comment redonner. Technique, on n'a plus de piles là. Voilà. Donc la licence OpenStreetMap n'est pas virale, c'est-à-dire que des données qui ne sont pas dérivées directement des données OpenStreetMap ne vont pas tomber sous la licence de partage à l'identique. Par contre, si on modifie les données OpenStreetMap, on doit fournir les modifications. Donc Avenir est une licence qui est plus adaptée aux bases de données, qui s'appelle la Open Database License, qui a été créée pour le projet OpenStreetMap. Voilà, donc actuellement, voilà. Donc, on a un petit peu une liste de ce qui est possible avec les licences. Donc on peut utiliser, on peut diffuser de manière gracieuse ou commerciale. Et la seule condition est de dire on va avoir, donc on va dire nos données viennent d'OpenStreetMap et de tel et tel contributeur. Ça, c'est le problème de la licence attribution Creative Commons. Et on n'a pas le droit de mettre en place de DRM, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire voilà, vous ne pouvez utiliser les données que 3 fois, ou que pendant 1 mois, ou que dans telle zone géographique. Voilà. Ça, c'est interdit. Ça, c'est dans la nouvelle licence Open Database License. Le problème de cette licence, c'est que les données que l'on met dans OpenStreetMap doivent pouvoir être redistribuées sous l'une de ces deux licences. Donc elles doivent être initialement libres. Les conséquences de ça, c'est qu'il faut bien vérifier que l'origine des données est correcte et libre. Il faut que la licence soit compatible. Il faut que l'on signale la source des données quand on les réutilise. Donc, par exemple, pour le cadastre, on va dire voilà, les données viennent de la Direction générale des finances publiques et elles ont été mises à jour en 2010, en 2011. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Et lorsque l'on réutilise les données OpenStreetMap, on va devoir aussi dire, bah voilà, elles viennent d'OpenStreetMap, tel compliqué, tel, comment, tel ou tel contributeur a contribué, etc. Donc ça, bah, ça a eu pour conséquence de supprimer quelques données dans OpenStreetMap. Il y a une ville au Chili, enfin il y a, je ne sais plus si c'est une entreprise ou un contributeur individuel qui a versé des données dans OpenStreetMap qui provenaient de Google Maps. Bon, ben voilà, ça arrive régulièrement. C'est-à-dire que les gens se disent, ben voilà, je connais la rue, voilà, je vais aller regarder un petit peu dans Google Maps comment elle s'appelle. Bon, ben voilà, ça on n'a pas le droit de le faire. Et dans l'autre sens aussi, il y a Google Maps, toujours à eux, qui en Colombie ont utilisé les données OpenStreetMap pour améliorer leur, comment, leur base. Le problème, c'est que bah, ces données, ils les ont modifiées et ils ne les ont pas redistribuées. Ils ne permettent pas aux gens de les réutiliser, etc. Donc, la fondation OpenStreetMap qui pilote sans être pour autant propriétaire du projet a fait pression sur Google Maps pour qu'ils suppriment les données de leur base. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a deux licences qui sont proches, donc Creative Commons, attribution, partage à l'identique, et Open Database License. Ces deux licences sont proches, mais malheureusement, elles ne sont pas compatibles. Donc, chaque contributeur à OpenStreetMap doit valider la nouvelle licence. S'il ne le fait pas, ces données, donc les données qu'il va avoir créées, ne pourront pas être réutilisées. Donc, il y a actuellement... va appeler un troll, dans le projet OpenStreetMap, sur le passage à la nouvelle licence. En fait, il y a tout un problème avec les termes de contribution et avec la nouvelle licence. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en suspens depuis un certain temps. Moi, je ne suis pas contributeur OpenStreetMap depuis très longtemps. J'ai découvert le projet, ça devait être en 2008. Ce troll existait déjà, enfin était naissant à cette époque-là, et maintenant c'est quand même assez important. Voilà. Donc voilà, bah, les données qui sont modifiées une fois en CC by SA peuvent pas être reversées dans la base ODBL, même si elles ont été modifiées ultérieurement. Alors c'est sujet à caution, voilà, c'est un troll. Donc on peut pas vraiment. Le problème de la licence est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un problème. Comment on va utiliser OpenStreetMap ? Parce que voilà, on a un projet qui est beau, qui est sympathique du côté technique. Comment on va s'en servir ? Il y a une carte glissante donc sur le site openstreetmap.org. Donc c'est ce que je vous ai montré tout au début là. Voilà. Donc ça, bah, ça va avoir une interface qui est un petit peu qui ressemble à Google Maps. Hein. On a une barre de zoom à gauche. On peut se déplacer en faisant glisser, etc. Voilà. Donc là, on se promène dans Bagneux. On va aller un petit peu plus loin, etc. Bon, on peut dézoomer un petit peu, beaucoup. Voilà. Donc là, on a la région parisienne. Donc toutes les taches vertes là, c'est des forêts qui ont été importées depuis la base de données Corinne Landcover. En gros, ça a permis de avoir une carte de France un peu plus jolie. Voilà. Bon, là, à ce niveau de zoom là, les données disparaissent, mais elles sont toujours là. Voilà. Donc on a les frontières. Si on va du côté de Berlin, ouais, on va s'en rapprocher un peu. Voilà, Prague, Varsovie, on est trop loin. Hop, là. Voilà, on se rapproche. Donc pareil, ici, les forêts ont été importées par CLC. Voilà, donc je rentre à l'intérieur de Berlin. Voilà, hop. Voilà. On voit que pareil, bah, les données sont très détaillées et tout. On a les stations de métro, etc. Bon, voilà. Ok, donc ça, c'est une des applications qui permettent de se connecter à OpenStreetMap. Voilà. Alors, on peut bien sûr exporter les données. Donc, les données, on va pouvoir les réutiliser pour les modifier, mais on va pouvoir aussi les afficher de manière différente. Par exemple, au CRANS, nous, on a une carte des bornes Wi-Fi où, en fait, on a le fond OpenStreetMap et on a dessus ajouté des points d'intérêt. Qui sont les bornes Wi-Fi. Voilà. Alors, là, y a plein de rouges, donc il faut aller redémarrer des bornes Wi-Fi. Mais globalement, voilà. C'est un petit peu pour ça que j'ai ajouté les bâtiments, etc. En bas à gauche, ouais, on voit que c'est Powered by Google. Alors, il s'avère en fait que on avait un système avant qui utilisait les données de Google. Voilà. Pour ne pas avoir une surcharge de travail importante, en fait, on a toute une suite de scripts qui vont générer la liste des bornes, le nombre de clients, etc. On ne l'a pas recodé pour utiliser OpenLayers, donc qui est le standard de facto pour utiliser les données OpenStreetMap. Donc on peut toujours utiliser l'interface de Google avec les données OpenStreetMap. Donc si on regarde ici en bas à droite, on a, on dit que c'est OpenStreetMap, et puis on peut aller voir les termes d'utilisation. Voilà. Une autre application qui est OSM Transport. Donc là, on a, donc là, ça utilise OpenLayers. Et en gros, c'est une carte des transports en commun. Donc là, à côté de l'ENS, on a deux lignes de bus qui passent. C'est la ligne 187 et la ligne 184. Voilà. Donc elles ont été tracées. Donc elles apparaissent comme ça. Voilà. Le RERB ici n'est pas affiché, mais on peut cocher la case ligne de train et hop, le RERB ça apparaît, etc. Voilà. Donc la richesse des données OpenStreetMap fait qu'on va pouvoir avoir tout un tas de rendus différents, etc. Sur Wikipédia aussi, il y a utilisation maintenant des données OpenStreetMap. Donc par exemple sur la page Wikipédia de Cachan, je ne l'ai pas ouverte là, mais bon voilà. On a la disponibilité de la carte de Cachan, etc. On peut aussi utiliser des fonctions de routage. Donc, le projet GeoVélo, en fait, est un projet qui permet de tracer des cartes, donc des routes pour les vélos, avec un affichage du profil de la route. C'est-à-dire que bah, voilà, s'il y a une grosse côte au milieu de la route, on peut dire bah, je veux choisir un trajet où il y a moins de pente, et l'API de routage va trouver un autre trajet alternatif. On a pareil de la traduction des données OpenStreetMap vers Garmin, etc. On a vraiment une pléthore de possibilités pour utiliser les données d'OpenStreetMap. Voilà. Comment contribuer ? Alors là, c'est un petit peu plus frustre comme présentation. Au commencement, était le GPS. C'est-à-dire que bah, les gens, au début, tout simplement, ils se baladaient autour de chez eux, ils se baladaient en vacances, etc. Avec, sur eux, un petit dispositif qui donc, trace un point toutes les secondes, etc. Donc ça, bah, après on peut les récupérer dans les interfaces d'édition d'OpenStreetMap pour pouvoir tracer des lignes, des points d'intérêt, etc. Pour contribuer, il y a une documentation qui est sur le wiki d'OpenStreetMap. Donc hop, je vous ai ouvert la page d'accueil ici. Donc on a un portail en français, voilà, où on peut découvrir bah, tout ce qu'on peut faire avec OpenStreetMap. Il y a des tutoriels vidéo, il y a des questions fréquentes, et puis il y a de quoi créer ses cartes, bien sûr, et il y a de quoi contribuer à droite, ici. Donc il y a de quoi participer. Donc pour participer, bah, il y a des éditeurs donc, qui vont permettre d'éditer les cartes, et puis il y a toute la partie qu'est-ce qu'on met dans la carte, c'est-à-dire comment on va décrire le monde dans le modèle de données d'OpenStreetMap. Voilà. Donc on va parler rapidement du modèle de données d'OpenStreetMap. Donc un peu quels éléments on va manipuler. Bah, c'est un modèle de données cartographique logique, hein, qu'on a des points qui vont décrire des coordonnées. Par exemple, à tel point il y a la mairie de Cachan. Mais bon, décrire un bâtiment comme étant un seul point, c'est pas fantastique. Donc on va aller jusqu'à la polyligne. Donc c'est en gros une ligne polygonale, donc où il y a un certain nombre de points qui sont ordonnés, et donc on a en fait une ligne qui peut être ouverte, fermée, un polygone donc, qui peut être considérée comme une surface ou pas. Par exemple, un rond-point, bah, ça va être une polyligne fermée, mais qui n'est pas une surface. Une place, par exemple, ce qu'il y a devant l'ENS, bah, c'est une surface qui va être fermée, et une aire, en fait, qui est une départementale. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a, c'est les relations. Donc, qui vont pouvoir, en fait... Alors, les relations, c'est pas vraiment des catégories, c'est plutôt dire, voilà, tel ensemble d'objets va être connecté, dans le sens, par exemple, pour une ligne de bus, bah, on va avoir dans la relation qui correspond à la ligne de bus, l'ensemble des rues qui composent la ligne de bus, plus des points qui décrivent où sont les arrêts, voilà, par exemple. Et le plus important, à mon sens en tout cas, c'est les étiquettes. Donc en fait, ça va être des paires clés-valeurs qui vont décrire les données. Parce qu'avoir un nuage de points, bah, ça a très peu d'intérêt. Par contre, avoir un nuage de points sur lequel, enfin, dans lequel il y a des étiquettes, donc par exemple, on va pouvoir dire, bah voilà, ici, c'est la mairie de Cachan. Donc ce polygone-là décrit un bâtiment qui est la mairie d'une ville qui s'appelle Cachan. Voilà. Donc on va avoir un tag qui va dire, c'est un bâtiment. On va avoir un tag qui va dire, c'est une mairie. On va avoir un tag qui dit, le nom du bâtiment, c'est mairie. On va avoir un tag qui va dire, le nom du bâtiment, ça va plutôt être hôtel de ville pour Cachan, d'ailleurs. Et on a un tag qui va dire, la ville s'appelle Cachan. Pour une rue, on va avoir, cette rue s'appelle l'avenue du président Wilson, c'est la départementale 57, c'est une route secondaire, etc. Voilà. Donc, quelques petits exemples ici. Donc, on va avoir un point d'intérêt ici, un nœud, on va avoir une surface qui va représenter un bâtiment, on va avoir un way. Donc, en fait, les polylignes, on va les appeler en langage OSM des way, puisque, bon, à la base, c'était pour tracer des routes. Donc, ça va être ouvert dans le sens où, voilà, le point initial, c'est pas le point final. Et ici, on a une relation. Donc, en fait, pourquoi c'est une relation ? Parce que c'est un bâtiment, en fait, avec un creux au milieu. C'est-à-dire qu'il y a un trou au milieu du bâtiment. Donc, on va dire, voilà, il y a la surface extérieure et le contour intérieur. Voilà. Alors, on va pas conclure aussi vite. On va parler un petit peu des outils que l'on peut utiliser pour éditer OpenStreetMap. Voilà, donc là, ça va être une présentation un peu plus informelle. Donc, l'outil qui va être assez souvent utilisé par les contributeurs d'OpenStreetMap. Alors, ça dépend. Il y a trois outils principaux pour contribuer à OpenStreetMap. Il y a un éditeur qui s'appelle JOSM. Donc, c'est l'éditeur Java OpenStreetMap. Bon, voilà, c'est pas moi qui ai choisi le langage de programmation. Donc, où on va pouvoir manipuler tous les objets. Ici, par exemple, je sélectionne le bâtiment d'Alembert de l'ENS Cachan. Donc, il s'agit d'un bâtiment, building égale yes. Le nom s'appelle bâtiment d'Alembert. Et la source, ça vient du cadastre, donc de la Direction Générale des Impôts Françaises, la source, etc. Bon, voilà, ça va dire que ça a été mis à jour en 2010. Voilà, donc c'est assez simple. Après, ici, on va sélectionner l'avenue du président Wilson. Donc c'est une route tertiaire qui est la départementale 127. Voilà. Ici, on a une boîte aux lettres. Ici, on a une barrière à l'entrée de l'ENS. Voilà, donc on peut dire que c'est le 61 avenue du président Wilson, que l'accès est restreint, c'est-à-dire que si on n'est pas, si on travaille pas à l'ENS, on peut pas rentrer. Mais par contre, on peut passer à pied. Voilà. ou pas. Bon. Il s'avère que les gens qui descendent de Bagneux pour aller à l'UT, ils traversent l'ENS. Hein. Voilà. On a, alors ça c'est vraiment l'éditeur si on veut aller au fond, si on veut aller à fond dans l'édition d'OpenStreetMap. Si on veut juste faire une petite correction toute simple, en fait il y a un éditeur en ligne qui s'appelle Potlatch, qui en fait est en Flash. Voilà, donc ça se met dans le navigateur tout simplement. Voilà, donc ici on a les données autour de l'ENS Cachan. Voilà, donc c'est un peu gros. Voilà, je peux cliquer sur le bâtiment. C'est un bâtiment de l'IUT, donc il n'y a pas de nom. Voilà. Si je clique sur le bâtiment d'Alembert, on a bâtiment d'Alembert, cadastre, machin, etc. Donc toutes ces toutes les possibilités pour contribuer sont décrites sur le wiki d'OpenStreetMap que je vous invite à consulter si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr. Il y a d'autres médias pour la contribution. Donc il y a un troisième éditeur qui s'appelle Mercator, je ne sais pas si je l'ai installé. Non, je ne l'ai pas installé. Bon, voilà. Donc on ne va pas pouvoir voir Mercator. En gros, je vais quand même aller voir sur le wiki, il doit y avoir un screenshot au moins. Voilà, donc Mercator, c'est un autre type d'éditeur. On voit qu'on a des fonctionnalités un peu équivalentes. Ici, on a la liste des tags, qui a inséré les données, etc. Voilà. Donc ça va être à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur OpenStreetMap. Bien sûr, je vais prendre des questions si vous le souhaitez. Pour rejoindre le projet OpenStreetMap, il y a trois médias importants francophones. On a le site openstreetmap.org. On a une liste de diffusion par email qui s'appelle talk.fr, donc liste sur openstreetmap.org. Et on a un canal IRC de discussion où il y a des fois des discussions techniques, des fois de l'aide, etc. Ça dépend. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Déjà, merci de m'avoir écouté. Attends, parce qu'il y a... Il y a Antoine qui... Merci.
Oui, merci. Vous parliez des données que Google Maps avait pris sur OpenStack et inversement. Comment vous voyez que les données viennent de là?
Alors en fait, y a une méthode qui va être assez simple. C'est déjà, il y a la comparaison du rendu. Si vraiment il y a les mêmes virages, il y a les mêmes noms, s'il y a les mêmes données, ou s'il y a une zone, en fait, il y a tout un suivi des modifications qui sont faites dans la carte. Si on regarde un peu sur le site OpenStreetMap, voilà, donc ici, on va y arriver. J'ai le site OpenStreetMap, je vais zoomer sur par exemple Paris, voilà, on va s'approcher un peu. Hop, on va mettre là, voilà, on est à Cachan donc. Là, je peux regarder l'historique. En fait, en haut à droite, et je vais avoir un peu la liste des modifications qui ont été faites. Donc chacun va un peu surveiller sa zone pour dire, voilà, par exemple ici, il y a un certain Brebru qui a modifié le RERC. Donc je vais cliquer, et puis je vais voir qu'il a supprimé 745 nœuds, qu'il a supprimé 76 chemins, etc. Voilà. Donc quand on a des modifications qui sont très rapides dans une zone où il n'y a pas beaucoup de contributeurs, on va se dire d'où viennent les données, etc. Surtout s'il n'y a pas de source en fait qui est affichée. Et donc on va pouvoir se dire, les données ne viennent pas d'une source correcte. Dans l'autre sens, on a des contributeurs dans certaines zones qui voient les modifications qui sont apportées dans les sources secondaires, enfin pas les sources secondaires, mais genre Google Maps, etc. Donc ils vont constater tiens, c'est bizarre, cette rue-là, elle n'était pas dans Google Maps, et je l'ai tracée dans OpenStreetMap. Et toc, elle est apparue, comme ça, et puis c'est exactement les points que j'avais tracés, etc. Et donc, de fil en aiguille, les gens ont constaté qu'il y avait des données d'OpenStreetMap dans Google Maps en Colombie. Ces constatations, elles sont vraiment dues à la chance, entre guillemets. Il y a certainement des données OpenStreetMap, c'est sûr, il y a des données OpenStreetMap qui sont réutilisées sans respecter les conditions de licence. Tout comme il y a des logiciels libres qui sont utilisés sans respecter les conditions de licence dans des logiciels propriétaires, etc. Voilà. Il y a des gens qui travaillent pour faire en sorte que les gens comprennent qu'est-ce que c'est les données libres, qu'est-ce que c'est le logiciel libre, et qui font en sorte de défendre un peu ces libertés.
Voilà. Oui, donc moi j'avais une question sur l'acquisition des données qu'on peut faire par un GPS, donc une personne qui se déplace avec un point qui est pris toutes les secondes. Comment est-ce que OpenStreetMap fait pour associer donc le tracé qui est fait par la personne et le nom de la route qu'elle emprunte? Parce qu'ici, a priori, c'est un territoire nouveau. Comment est-ce que vous trouvez l'information?
Donc l'idée, c'est que en fait, le tracé GPS, on va avoir juste une ligne. Donc si on regarde ici, on a trace GPS. Ouais. Donc les gens en fait vont envoyer leur trace GPS sur OpenStreetMap, simplement. Et puis on va pouvoir... si on clique sur carte ici, on va pouvoir voir la carte dans la zone. Alors bon, c'est au fin fond de la Russie, ça va pas être pratique. Bref. Bon voilà. Peu importe. Il me semble pas qu'on voit le tracé. Par contre, dans les éditeurs type JOSM, etc., on va pouvoir dire je veux télécharger les traces GPS. Voilà. Donc ici, on peut télécharger les données OpenStreetMap. Donc on peut voir les données qu'on peut modifier. Et on peut aussi télécharger les données GPS. Voilà, je vais le faire. Voilà, donc on voit qu'il y a ici, là, si on regarde, des traits... ça, c'est pas une bonne idée. Annulons. Voilà, on va zoomer un peu sur l'avenue du président Wilson. Et on voit qu'il y a des traits qui sont un peu dans tous les sens et qui ils sont à peu près... du côté de l'avenue président Wilson. Mais après, il va falloir qu'il y ait un contributeur donc, qui prenne un papier et un crayon et puis qui aille se promener et qui voit que ici la rue s'appelle avenue du président Wilson. Après, le contributeur, il peut aussi faire, j'ai des traces GPS, donc je sais qu'il y a une rue, je vais aller télécharger le cadastre, par exemple, et puis sur le cadastre, il va y avoir marqué, ici, c'est l'emprise de l'avenue du président Wilson. Comme ça, les gens peuvent récupérer les données. Avec un peu de chance, les données du cadastre sont à jour au niveau de la toponymie. Et donc, on peut récupérer ces choses-là. Voilà. Dans les zones où il n'y a vraiment rien, il faut faire avec du relevé papier crayon. Il faut se promener. Quand on est en vacances, on fait une balade en vélo. Et puis, des fois, on s'arrête, on note un nom de rue, etc. Ça m'arrive.
Merci.
bonjour. J'aurais voulu savoir comment on pouvait rajouter des nouveaux objets. Je parle par exemple des poubelles ou de nouveaux objets. Là, on a vu les boîtes aux lettres, mais est-ce qu'il y a une nomenclature pour qu'on puisse toujours utiliser les mêmes noms ou autres ?
Bien sûr. Alors, il s'avère que la philosophie du projet OpenStreetMap, c'est de ne pas imposer de choses. C'est-à-dire que si je décide de créer un nouvel objet avec un tag poubelle égale oui, il y en a une, personne ne va m'interdire de le faire. Par contre, si on regarde dans les éditeurs, ici par exemple JOSM, on a toute une série de pré-réglages où on va avoir, par exemple, ici on a commerce, alimentation, et puis ça va donner une série de tags pour un marchand de fruits de mer, bon, voilà, par exemple, ou pour un distributeur, une banque, etc. En fait, il y a toute une procédure. Donc, si on regarde sur le wiki d'OpenStreetMap, en fait, il y a toute une procédure pour définir des tags canoniques, en fait, qui est en fait un vote de la communauté. Quoi. C'est quelqu'un qui va faire une proposition, par exemple, pour un schéma de tagging des transports publics. Et puis, les gens vont voter, vont dire ça pourrait être amélioré, ça il faut le modifier, ça c'est pas possible, etc. Donc, c'est plutôt du consensus que de la stricte régulation. J'espère avoir répondu. Alors après, si on regarde dans Potlatch, donc l'autre éditeur, à pouvoir pareil, il y a toute une liste des tags qui sont utilisés sur la carte. Voilà. Après, l'utilisation de ces tags-là n'est pas obligatoire. Si je suis un connaisseur, je vais pouvoir dire dans l'onglet avancé, voilà, je vais pouvoir mettre un tag différent, quoi, si ce n'est pas dans les trucs prédéfinis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je ne sais pas où est le micro, hein. Mais il est juste là.
Moi, j'aimerais savoir s'il y a des outils qui permettent de se géolocaliser par rapport aux données d'OpenStreetMap.
Alors, oui, c'est possible. Par exemple, moi, j'ai une application sur mon téléphone portable. Donc, sur mon téléphone portable, il y a un GPS. Voilà. Et j'ai une application qui va télécharger en fait les petites tuiles d'images des données OpenStreetMap et puis qui va mettre un point là où je me trouve. Et après, dans cette application-là, je vais pouvoir faire du routage. Donc il va aller contacter un serveur pour lui demander quelle est la route vers ce point-là. Et puis il va me dire dans 200 mètres, tournez à droite, etc. L'application s'appelle Modrana. Enfin, c'est pour MMO. Mais après, il y a plein d'applications. Pour Android, sur l'iPhone, etc. Je j'ai pas des noms en tête, mais bon, ça se trouve assez rapidement sur le wiki.
A-t-on un rendu 3D ?
Alors, il n'y a pas de... Comment ? En fait, dans OpenStreetMap, il y a vraiment, pour l'instant, c'est du 2D. C'est-à-dire que chaque point, il a un X, un Y. Il y a une proposition d'un nouveau format de données où il y aurait peut-être une possibilité de mettre la troisième coordonnée. Actuellement, pour dire que le sommet de l'Himalaya est à 7000 ou 8000 mètres, la géographie c'est loin, en fait il y a un point sur la coordonnée GPS et on dit élévation égale 7812 mètres. En fait. Donc il y a un tag en plus qui dit élévation 7812 mètres. Pour les bâtiments, on peut dire height égale 3 mètres ou height égale 2 étages. Voilà. En plus, il n'y a pas vraiment de standard pour dire quel est... comment. Voilà, après, on va toujours avoir des problèmes d'interopérabilité. Par exemple, sur les rues, on va dire la limite c'est 30 km/h. Puis en Grande-Bretagne, on va dire la limite c'est 30 miles par heure. C'est pas. Après, il faut savoir convertir entre les deux, etc. C'est pareil, c'est du consensus. Merci à tous.